Nous avons terminé en prenant un peu plus de temps que prévu, mais croyez que nous avons été synthétiques encore. Et évidemment, nous allons maintenant avoir le plaisir de dialoguer tous ces points avec vous.
Christian Topalov de l'École des hautes études. D'abord, un immense merci pour être venu nous voir. Une immense merci surtout pour avoir fait ce texte et le faire circuler, parce que je pense que dans la situation actuelle, une des choses essentielles, c'est que les collègues soient aussi nombreux que possible à imaginer qu'un autre avenir reste possible. Et on sait bien que depuis le mouvement de 2009, la grande difficulté que nous avons rencontrée constamment, c'est un découragement croissant et finalement l'acceptation d'un état des choses qui semble désormais presque naturel. Donc un texte comme ça est de nature, je crois, à ouvrir des perspectives, c'est absolument fondamental. Bon, il y a beaucoup de points, mais disons, j'aimerais en aborder un particulièrement. C'est la question de l'irréversibilité des réformes sarkozystes. On a besoin de regarder ça ensemble avec beaucoup de lucidité et en élaborant autant que faire se peut des stratégies qui nous permettent de taper au bon endroit pour arrêter la machine. Et c'est extrêmement difficile. Alors je voudrais juste prendre, bon, peut-être le plus gros malheureusement, les IDEX. Hein. Et puis tout, les ex liés, peut-être les labex, le reste c'est plus, enfin c'est peut-être moins catastrophique. On a fait des expériences dans cet amphi et dans d'autres salles de cette institution, c'est qu'on a demandé à des responsables politiques, en l'occurrence de trois partis, trois regroupements de la gauche parlementaire, de venir nous dire ce qu'ils allaient faire, des représentants, des candidats, et ça je crois que vous allez être conduits à avoir des démarches tout à fait semblables. Moi j'en ai tiré quelques conclusions et quelques craintes. Pour ce qui concerne les IDEX, arrêtons-nous là. Aussi bien le Front de Gauche que Europe Écologie Les Verts nous ont dit, c'est très simple, il faut le démanteler, ces choses-là. Le représentant du Parti Socialiste et du candidat de ce parti a eu un discours plus nuancé, pour le moins. Et en substance, voilà ce que j'en ai retenu, personnellement. D'abord, il faut rétablir les équilibres territoriaux et par conséquent, ceux qui n'ont pas eu d'IDEX, ils auront plus d'argent du budget normal, je dirais, que ceux qui en ont eu. Donc, en d'autres termes, le dispositif des machines reste en place, mais on rééquilibre. Deuxièmement, on remet en cause, on ne sait pas très bien comment, mais en tout cas, l'accent de notre interlocuteur était authentique, on remet en cause les systèmes de gouvernement absurdes, enfin, je veux dire, autoritaires à un point tellement scandaleux que, bon, ça peut pas... Donc, on rétablit un espèce de droit commun, en quelque sorte, de droit commun de la démocratie universitaire dans ces machins-là. Et voilà. C'est ça que j'ai retenu. Ah non, un autre point très important, c'est on met en cause, à l'intérieur des IDEX, les périmètres d'excellence au sein des institutions en question, que Bertrand Montubert appelle très justement les périmètres d'exclusion. Donc désormais, quand on a la chance d'appartenir à un IDEX, tout le monde en profite. Voilà, ça c'est la troisième mesure. Alors, à partir de là, il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est comment nous allons, enfin, je crois qu'on est dans des perspectives beaucoup plus radicales par rapport à ces institutions, est-ce qu'on peut d'abord accepter le principe même de cette mise en concurrence généralisée? Est-ce qu'on peut, d'autre part, accepter la substance de ces projets? Ces projets qui n'ont été évalués de façon digne par personne, bien entendu. Ce n'est pas ces jurys grotesques qui ont évalué quoi que ce soit. Donc, si on ne porte pas le fer sur le contenu même scientifique, pédagogique de ces projets, on va perdre. Je veux dire, ils vont se pérenniser. Et d'autre part, les géographies institutionnelles qui ont été créées, bon, là, c'est un point de vue peut-être un peu trop parisien, sont d'un arbitraire total. Enfin, je veux dire, c'est le ministère qui a dit, vous vous mettrez avec un tel et pas avec un tel, évidemment. Dans les régions, c'est peut-être un peu différent. Dans les villes, c'est peut-être un peu différent. Donc, à la fois sur la substance et sur la géométrie, comment faire pour remettre ça en cause? Et je ne veux pas être long, mais le sentiment que j'ai, c'est que ça, ce n'est pas des choses qu'on peut remettre en cause par des mesures nationales. C'est des choses qu'on peut remettre en cause dans des batailles qui seront malheureusement pour une large part locale. Voilà. Ensuite, dernier mot. À l'École des hautes études, on a eu la chance de perdre l'IDEX, vous voyez. Donc, on n'aura pas de board of directors, etc., etc. Sauf que, notre président, il a bien l'espoir qu'avec ses amis socialistes, il aura tous les sous pour le projet exact qu'il a soumis à la deuxième vague d'IDEX et qu'il n'a pas eu. Et il n'est probablement pas le seul dans le fichu presse en question. Donc le problème est comment mettre un terme à ça. Est-ce que la bataille est possible au sein de chacun des établissements? Et est-ce qu'on peut gagner une bataille aussi dispersée? Mais est-ce qu'on peut aussi gagner sans la mener? Voilà. C'est ça ma question, c'est comment faire pour porter le fer là où il faut malheureusement le porter.
Pascal déjà l'a bien dit, peut-être que le scandale financier va éclater et que si ça éclate, si on voit qu'effectivement ceux qui ont eu les IDEX n'ont pas eu l'argent escompté, il peut y avoir des désillusions qui mèneront à ce que les projets se démantèlent d'eux-mêmes. Enfin, on peut peut-être l'espérer. Je sais aussi que, Pascal a très bien dit, ces projets se sont faits dans un petit coin. Et la plupart des collègues ne sont pas au courant. On commence à découvrir quand le projet est enfin mis sur la place publique. Et en tout cas, je connais des collègues à Toulouse qui sont tombés des nues en découvrant que le board of directors allait comprendre seulement un enseignant-chercheur pour représenter toute la communauté des trois universités de Toulouse réunies. Donc je pense qu'il va y avoir des prises de conscience qui pourrait aller en notre faveur. On peut l'espérer.
En aucun cas, il ne faudrait tomber dans le piège des aménagements locaux. Il est clair qu'on va aller vers ça. Je prends un exemple concret. L'IDEX de l'UDS, c'est pas trop mal dans l'un de ses aspects, puisqu'il y a 30% des moyens qui vont être affectés hors périmex. Alors, une lutte possible des élus de l'intersyndicale Agir Ensemble, par exemple, pourrait te dire, après hypothétique arrivée au pouvoir des socialistes, on va jusqu'à 50% et on maintient les structures en place. De mon point de vue, c'est catégoriquement non. Non. Si on accepte de se battre localement pour des aménagements, on fait le jeu de ce qui est en route du côté des projets socialistes, à savoir des aménagements à la marge, des accommodements, un maintien de l'autonomie et d'une part substantielle de la LRU, et une accélération de la politique d'excellence avec, a dit François Hollande, une accélération d'attribution des moyens. Voilà. Donc, en définitive, une accélération et une mise en œuvre effective de la politique d'excellence. La logique dans laquelle il conviendrait de se situer serait de dire, il y a encore très peu de moyens qui ont été distribués aux universités, une infime partie. On a fait le calcul pour l'Université de Strasbourg, on a touché pour l'instant 2% de la totalité de ce qu'on devrait avoir. L'ABEX, l'EQIPEX et tous les autres. On a touché 2%. Il est encore temps, je veux dire, d'arrêter la machine, surtout aussi avec un argument qui concerne un principe de fond, celui de la démocratie. Ces projets n'ont pas été élaborés démocratiquement. Aucun projet d'excellence n'est passé devant le conseil d'administration. Aucun, pas un seul. Le seul à être passé, parce qu'il y a un problème de statut, de SASU, Société à capitaux simplifiés, c'est le projet du Gynécole ISE dont je parlais tout à l'heure. Mais le reste, on a l'IDEX, les LABEX, rien n'est passé en CA. Donc, on attaque très fort sur une question de démocratie et les conditions même d'élaboration des projets qui sont pas admissibles, à mon sens, pour les trois quarts des projets. Il y a des LABEX, il y a des EQIPEX, certes, qui sont construit un peu collégialement, avec consultation des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Ça existe, mais la très grande majorité, en tout cas des grosses structures et des gros projets, c'est un compile qui a bossé, comité de pilotage très resserré, sans aucune validation en conseil, avec sans aucune légitimité.
Oui, ce que vient de dire Pascal me paraît extrêmement important et je crois qu'il faut absolument ne pas tomber dans une sorte de fatalisme. D'une part, pour la deuxième vague d'IDEX, les conventions n'ont pas encore été signées. Donc il faut, je crois, être très présent actuellement. On est à une phase charnière et il y a peut-être un moment, vraiment une fenêtre dont il faudrait, enfin une occasion dont il faut s'emparer, qui est effectivement de ne pas signer de convention en l'état actuel des choses. En plus, on est en plein contexte électoral, donc c'est quand même très facile à comprendre. Donc déjà, première chose, bloquer, jouer la montre et bloquer un peu la machine de cette manière-là. Et puisque Pascal disait, c'est effectivement que les conseils n'ont absolument pas été saisis, ne sont pas au courant, n'ont pas les documents essentiels pour prendre la moindre décision éclairée. Donc c'est quand même effectivement un minimum que d'encourager tout simplement ces conseils à se ressaisir de leurs prérogatives. Ce ne sont pas des choses extraordinaires, simplement d'exercer leurs prérogatives. Et puis, il y a des enjeux financiers qui sont évidents, parce qu'elle en a parlé, mais on sait actuellement, on a su, par exemple, pour le presse, c'est tout à fait public, hein, pour le presse Paris-Sorbonne-Cité, que la dotation est déjà amputée de plus d'un tiers. Donc, c'est quand même assez phénoménal. La convention n'est pas encore signée, qu'on sait déjà qu'il y aura un tiers d'argent en moins à la clé. Donc, des choses comme ça, ça doit faire réfléchir. Et tout ce qu'on voit, c'est que finalement, ces structures d'IDEX ont pour finalité non pas vraiment d'aider la recherche dans tous les domaines, bien évidemment non, ce sont les structures des dispositifs de restructuration en de nouveaux établissements. Et là, je crois qu'il faut avoir une analyse peut-être un peu plus fine des différents types d'IDEX. On a des IDEX type Toulouse, où effectivement, c'est surveiller et punir, comme certains l'ont dit. Il y a d'autres IDEX qui ont des structures un peu plus complexes. C'est un petit peu plus difficile de se positionner par rapport à eux, du moins pour un certain nombre de personnes, parce qu'il n'y a pas de fondation à la clé. Donc ça paraît plus démocratique, plus collégial. Il s'agit de construire une grande université avec des conseils et donc un fonctionnement à terme qui sera effectivement démocratique et collégial. Sauf que pour arriver à cette grande université, on passe par une démarche, un processus qui ne l'est absolument pas. Alors je crois qu'il ne faut peut-être pas préjuger de l'apathie des conseils qui sont en train actuellement d'être dépossédés de leurs prérogatives et qui quand même auront bien à un moment donné leur mot à dire. Et on est peut-être, je crois, sur une phase de quelques semaines où il est très important de faire beaucoup d'informations et de lancer beaucoup d'alertes à ce sujet, parce que tout n'est peut-être pas joué. Et après, effectivement, il faut repartir sur des considérations et des principes nationaux. On ne peut pas, absolument pas s'en sortir localement. Mais tout n'est sans doute pas joué. Du moins, il ne faut pas partir comme ça.
Oui, moi, je voudrais préciser quelque chose, surtout par rapport à ce qu'a dit Pascal tout à l'heure, parce que en ce qui concerne l'IDEX de Paris 6, où je suis, je crois que la situation est beaucoup plus grave et je pense que c'est peut-être le cas quand même partout. Il faut bien voir que c'est justement ces conventions que le gouvernement essaye de s'empresser de faire signer à tous les IDEX qui ont concouru. Il y a des clauses qui sont quand même assez graves sur le fait que les universités, enfin les établissements, le lauréat, s'engagent à un certain nombre de choses pour pouvoir toucher les fonds de l'IDEX. Hein. Et ces choses, c'est quoi ? En particulier, on a réussi à avoir la lettre d'engagement de la phase 1 auquel finalement Paris 6 a échoué et on n'a pas réussi à voir celle de la phase 2, en tout cas jusqu'à présent. Mais pour la phase 1, c'était assez grave parce que le président s'engageait à verser un certain pourcentage du budget récurrent de l'université exclusivement dans le périmètre d'excellence de l'IDEX. Et c'est uniquement à cette condition-là, en plus il était bien marqué que l'ANR aurait le droit de venir à l'université demander à l'agent comptable de sortir toutes les factures, etc., pour vérifier que effectivement ces sommes-là ont été versées. Donc on voit bien un petit peu le danger qu'il y a de cette chose-là, hein, c'est le fait qu'on prend l'engagement qu'une partie du budget récurrent sera affectée au périmètre d'excellence, c'est-à-dire pas aux autres. Et puis finalement, on va vous dire, ah bah écoutez, mon pauvre monsieur, finalement, vous comprenez la crise de la dette, et puis bah donc, vous aurez moins que prévu que ce qui était versé à l'IDEX. Et donc, c'est vraiment ça qui est en train de se passer par rapport au fait que l'argent du grand emprunt, où est-il ? Et que peut-être qu'on ne le verra effectivement jamais, mais que ce qui aura été acté dans les faits, c'est justement un changement de méthode de gouvernement à l'intérieur des universités, parce que fondamentalement, c'est ça qu'ils veulent, et pas autre chose. Et il faut vraiment être très vigilant là-dessus et demander effectivement à tous les conseils centraux aujourd'hui de refuser de signer les conventions avec les IDEX, parce que c'est une arnaque au niveau budgétaire qui va se retourner même contre les lauréats.
Et l'information aussi, elle devrait se focaliser sur le problème des partenariats publics-privés. On n'en a pas assez parlé. Les IDEX sont liés à ces partenariats publics-privés, par exemple, ou les plans campus également, où les universités doivent s'engager à passer par des entreprises privées, Bouygues, par exemple, pour construire une nouvelle maison de la recherche ou un nouveau bâtiment. Et ensuite, l'entreprise privée qui aura bâti la structure demandera un loyer à l'université et au fil des ans, l'université finira par payer la structure beaucoup plus cher que ce qu'elle n'aurait coûté si l'université et l'État l'avaient financée directement. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il nous faut dénoncer. On voit bien les ravages des partenariats publics-privés à l'hôpital, par exemple. On voit les hôpitaux qui sont en train d'être construits sur ce mode et les dysfonctionnements que l'on trouve. Par exemple, l'antenne de Clignancourt de Paris 4 a été construite sur ce mode-là et le chauffage a dysfonctionné dans les deux premières semaines d'ouverture. Donc c'est des choses qu'il faut absolument répéter. Il faut informer nos collègues et leur dire que ces partenariats publics-privés sont des arnaques financières purement et pures et simples. Et encore une fois, peut-être que l'argent de ces IDEX et ces plans campus vont finalement aller vers les entreprises privées qui, elles, vont ramasser l'argent et un beau pactole.
Oui, je voudrais juste aussi ajouter un point par rapport aux candidats déclarés à l'élection présidentielle. C'est que je crois qu'il convient que tous nous faisions par différents canaux et nos organisations et nos associations remonter une demande qui est un engagement de décréter un moratoire sur tous les IDEX. Voilà, quelque chose de clair, de ne pas embrouiller, mais de commencer par là. Ça paraît déjà quelque chose d'un peu plus saillant que de noyer le poisson, quoi.